RMC, entre les poteaux,
Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, c'est le premier apéro des poteaux de l'année 2026. C'est le seul apéro que tu peux consommer sans modération, même si on va pas se mentir. Apéro léger, les amis, hein, le 2 janvier. Moi, je suis fatigué déjà et je pense que les poteaux du jour aussi. Même si le top 14 ne s'arrête jamais, nous, on a un petit peu coupé et on est bien plus fatigué que les joueurs. Pierre Thévenet et Julien Landry, salut les mecs.
Salut Nico, salut à tous.
Parle pour toi.
Oui, nous, on est en pleine forme.
Oh, vous êtes en pleine forme, vous?
Oui, évidemment.
Je me balade.
Il y a Stade français Castres demain. Comment tu veux que je sois pas en forme, en fait?
Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est de là à renchaîner sur un apéro, là, moi, j'ai plus les cannes.
Ah oui,
ouais,
on va faire un apéro light au Perrier.
Bah oui, c'est bien aussi.
Non, bien sûr que si. Un véritable apéro.
Pas de dry January, Julien.
Un apéro. Non, commencez pas avec le dry January ou je sais pas quoi, là. Non, léger, avec modération, toujours. Mais voilà,
mais pas de rail.
Mais pas de rail.
Avec modération, c'est le plus important en effet. Bah les gars, c'est parti. On se plonge dans cette 14e journée de top 14. Je vous donne tout de suite le calendrier à 14h30. Perpignan, l'USAP recevra le monstre Stade Toulousain. 16h35, le multi-rugby Lyon. Montpellier accueille l'Aviron Bayonnais, le Stade français à Paris recevra Castres et Montauban reçoit Clermont qui a battu Bordeaux la semaine dernière à 21h. Le choc de ce samedi, ce sera l'UBB justement qui reçoit le Racing 92, et le choc de dimanche, si on appelle ça encore un choc, sur le papier c'est un choc, et on sait en plus que le rugby club toulonnais va peut-être faire tourner. En tout cas, on va se pencher sur ce match, ce sont les mots de Pierre Mignoni. Le Stade Rochelais qui en a pris une énorme la semaine dernière à Toulouse, doit se relever contre Toulon.
Voilà, annoncé dans l'apéro des poteaux, on n'est pas toujours bon, mais celui-là, je t'avais dit de prendre une feuille avec beaucoup de place pour marquer les essais quand même. J'avais annoncé.
C'est vrai. C'est vrai, mais je crois que c'est le seul bon prono que tu as fait la semaine dernière. De
il en faut bien un.
Mais c'est vrai.
Ouais, mais il faut le souligner, hein. Du coup.
Non, mais t'as raison. Et les joueurs, c'est ça. Tu sais, les parieurs, ils ont perdu 50 ouais. balles. Ils te disent ouais, mais
j'ai
rentré.
J'ai gagné 12. Il y a 12 qui sont rentrés. Ouais.
Le classement du top 14. Alors qu'on va débuter cette phase retour. Hein. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est le premier match de cette phase retour. Le Stade Toulousain a un petit point d'avance sur la section paloise. Toulon est toujours 3e devant. Le Stade français, l'UBB est descendu à la 5e position et c'est Bayonne qui referme ce top 6, mais c'est extrêmement serré, hein, vous le savez, entre la 4e position
et la 11e.
Et en queue de peloton, Montauban 13e, barragiste provisoire avec 7 points, mais il y a l'USAP qui recolle avec 5 points, l'USAP dernier du top 14. Voilà les gars, on va se pencher tout de suite sur le premier match qui nous intéresse, c'est ce choc de 21h demain, de samedi, pardon, vous savez qu'on enregistre le vendredi soir, de samedi entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Racing 92. Pierrot, c'est un match important pour les deux équipes, vraiment, parce que Bordeaux, bah, la stat et la dynamique, elle n'est pas bonne. 3 défaites lors des 4 derniers matchs de top 14. Bon, bien sûr, il faut analyser derrière ces performances-là, parce que les 4 derniers matchs, ça remonte à loin. Il y a eu la Champions Cup entre-temps, cette période de Champions Cup. Et puis le Racing 92, bah, doit prendre des points pour faire quelque chose de bien et espérer jouer les phases finales en fin de saison. Surtout qu'ils ont les moyens de le faire, là. Ils n'ont pas beaucoup de blessés. Pierrot, il y a de la place.
Ouais, exactement. Je te laisserai faire la partie Bordeaux parce que tu les connais mieux. Mais c'est vrai que les Bordelais ont été un peu décevants à Clermont la semaine dernière. Et même si la Champions Cup s'avait redonné du mieux à cette équipe bordelaise, on est encore loin des standards de l'année dernière. Mais c'est vrai que le Racing, on a vraiment l'impression que ce mois de janvier peut être charnière pour eux, parce que là ils se déplacent à Bordeaux, mais ensuite ils recevront Lyon et Perpignan à la fin de ce mois de janvier, avec pas de Champions Cup pour les fatigués, mais de la Challenge plutôt. Ils n'auront a priori que Gaël Ficou et peut-être Romain Tao appelés en bleu, mais pas très peu touchés par les doublons pendant le tournoi destination. Ils ont actuellement que 4 joueurs blessés qui reviendront tous en février, début février. Donc il n'y a pas de blessés à long terme comme on a à La Rochelle ou à Toulon. On en reparlera, des mecs qui ont fini leur saison ou qui sont absents de longs mois. Là, il y a notamment Max Spring qui est sur le retour, Ibrahim Diallo aussi. Mais voilà, pas un effectif qui est quasiment au complet pour ce début du mois de janvier. Et comme le Stade français, comme Bordeaux, ils font partie des équipes qui sont plus déplacées qu'ils n'ont reçu sur la première partie de saison. Donc on a l'impression que tout est aligné pour qu'en tout cas ils aient les clés en main pour être dans ce top 6. Après, ça va être à eux de faire le boulot, évidemment, et d'aller chercher au moins une victoire à l'extérieur. Mais en tout cas, il y a un mois qui va être très important. Et Patrice Collazo le sait que ce mois de janvier va être crucial.
Je crois qu'on est une des rares équipes à ne pas avoir reçu encore deux fois d'affilée, sachant qu'on sera quasiment pas impacté par les doublons aussi. Effectivement, janvier-février, sur ces deux mois-là, il y a peut-être une fenêtre pour s'installer pour la suite. Après, on aura ce qu'on mérite aussi, ce que les joueurs ont envie aussi d'aller chercher, ce que nous, on leur apporte aussi pour qu'ils progressent, parce que c'est important aussi. Il faut faire une série, je pense, de 2-3 quasiment, pour pouvoir s'installer et avoir un peu de visibilité.
Et Julien, tu disais qu'il faut qu'ils jouent mieux. Je ne suis pas forcément d'accord avec toi, parce qu'ils jouent mal à Ossat Français et ils font le match nul et ils doivent gagner ce match. Ils ne jouent pas très bien à Castres, ils doivent le gagner aussi. Donc, non, mais évidemment, c'est pour ça que je préférerais qu'ils jouent mieux.
Mais je dis, pour avoir des ambitions, il va falloir qu'ils jouent un peu mieux. Alors, ça leur permet de gagner, mais qu'ils fassent un peu mieux que ce qu'ils font en ce moment. C'est ça que je veux dire.
Qu'ils font, non, qu'ils
ça leur suffit pour gagner, je suis d'accord.
Oui, c'est ça, en fait. Oui. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, que c'est pas, qu'on ne s'amuse pas beaucoup en regardant le Racing 92, mais je trouve que le peu de blessés, les doublons, le calendrier qui est plutôt intéressant font qu'on peut se dire qu'ils sont un candidat à ce top 6. Notamment, il y a un enchaînement, j'ai regardé de matchs au mois d'avril-mai, où ils vont recevoir successivement le Stade Français, La Rochelle et Toulon, avec au milieu juste un déplacement à Montauban. Et tu te dis, si là par exemple tu fais un 4 sur 4, en fait tu es dans les 6. Donc ils ont un calendrier qui est plutôt en leur faveur, ils ont un groupe qui est en bonne forme et pas de Champions Cup pour les fatiguer. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que si ça commence à s'enclencher, ça peut être très intéressant. Maintenant, de là ce qu'ils aient gagné à Bordeaux, ça c'est quand même autre chose.
Ouais, mais après, louons pour le coup le travail de Patrice Collazo, qui a annoncé la couleur en arrivant.
Totalement.
En disant « je veux plus d'équipe de Starlet,
les Galactiques, c'est terminé.
C'est Galactique, il va falloir qu'on retrouve les valeurs historiques du Racing, un jeu d'avant, il va falloir qu'on retrouve un vrai jeu d'avant, en tout cas. Alors, les valeurs historiques du Racing, c'est les paillettes plus que le jeu d'avant, mais Patrice Collazo, en tout cas, lui, voulait retrouver un semblant de construction dans son jeu basé sur le jeu d'avant. On l'a vu d'ailleurs au Stade Français où ils ont été très bons contre l'une des meilleures mêlées du championnat, ou si ce n'est même la meilleure mêlée.
Ouais, bien sûr.
Voilà, on a l'impression qu'il a remis en tout cas les bases du jeu du Racing et que ça leur permet, surtout sur ces mois d'hiver-là, de bien pouvoir voyager. Après, moi, je suis toujours sceptique sur cette aréna où tu as des équipes qui arrivent.
Mais pas cette
des
année.
Joueurs... Non, pour c'est pas coup. Cette année, mais tu vois, où tu as des joueurs qui ont des équipes pour venir torpiller le Racing à l'extérieur avec des joueurs qui ont des grosses qualités. Mais oui, ils seront un candidat au top 6. Tu parles aux Britanniques, ils sont 6e d'ailleurs aujourd'hui,
c'est ça.
Avec 9 points. Donc ils sont dans les 6 en ayant moins reçu. Donc, effectivement.
Et ils ont plus de victoires que le Stade Français, par exemple, qui est devant eux au classement. Ils ont eu un problème de bonus en début de saison. Ils en ont gratté que 3 sur la saison, alors que le Stade Français en a 8. Mais dans les faits, ils ont plus de victoires. Et il faut aussi souligner, on parle beaucoup de ces équipes qui balancent les matchs à l'extérieur. C'est pas le cas de Patrice Collazo.
C'est Racing, pas le cas du Racing,
qui a connu des grosses désillusions à Toulon, à La Rochelle notamment. Mais le match à Toulouse, ils sont dans les clous à la mi-temps avant ce carton rouge de Tarit. Et en tout cas, ils ont jamais balancé de match en envoyant une équipe remaniée. C'est aussi l'absence de Champions Cup, bien sûr, qui leur permet de faire ça. Mais je pense
comme Montpellier
match,
d'ailleurs. Et d'ailleurs, ils sont jamais diffusés le dimanche soir. Ouais, Canal Plus, une solution. Ils ont qu'à diffuser Racing Montpellier. Ils sont sûrs d'avoir les deux meilleures équipes sur la pelouse.
Mais je crois que c'est pas la tendance.
Non, je crois pas non plus.
Quand tu vois le score de Toulouse, quand on met 60 à La Rochelle, l'audience de Toulouse qui fait plus d'un million.
Bah, quand il y avait Antoine Dupont qui met tout le monde d'accord, ça aide aussi en termes d'audience.
C'est clair. En face, l'Union Bordeaux-Bègles. L'Union Bordeaux-Bègles qui a déçu à Clermont, et ça a été vraiment le mot d'ordre de la conférence de presse à laquelle moi j'ai assisté aujourd'hui, où tu sentais que ils étaient encore une fois passés à côté quand il n'y a pas les cadres. Sur un match à l'extérieur, malgré tout, c'est...
Mais il y en avait quelques-uns des cadres en plus, Nico, quand même, dans ce match.
Oui, il y en avait quelques-uns, mais tu avais quelques petites rotations, notamment devant. Mais ça a toujours été des équipes un peu hybrides. Et il n'y avait pas Mathieu Jalibert. Et on voit bien qu'il y a une UBB avec Jalibert et sans Jalibert. J'ai l'impression que ça
fait 3 ans. Avec Jalibert, ils sont 16 déjà. Parce que comme il a deux jambes, il a un tamac dans chaque jambe, ça fait 16.
C'est ça. Totalement.
Non. Totalement. Il valide
pour ce début d'année. Non, bien évidemment, je plaisante. C'est du second degré. Je ne pense absolument pas ça. En tout cas, il y a une donnée mathématique, les gars. C'est que l'UBB est à 12 points du top 2 et que forcément, là, on se dit qu'il n'y a plus de joker. Alors, c'est un mois de janvier et Collazo en parlait pour le Racing, qui est aussi capital pour Bordeaux, parce que tu vas recevoir deux fois en championnat. Tu as la venue de Northampton la semaine prochaine. Donc voilà, ils ont aussi un peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête avant les rassemblements en équipe de France et le départ des internationaux. Il faut absolument prendre des points. On a posé la question tout à l'heure à Noël McNamara, l'entraîneur des arrières, si ce top 2 c'était toujours un objectif ou si finalement t'essayais de te projeter pas un peu plus sur un barrage à domicile, parce que matcher là pour essayer de gratter ces 12 points de retard et en plus jouer le titre en Champions Cup, ça paraît compliqué, la réponse du coach.
C'est toujours l'objectif. On a dit l'année dernière, le top 2, c'est important pour plusieurs raisons. On a joué 6 fois à domicile et 7 fois à l'extérieur. Donc, on a confiance en nous. Hein. Nous sommes capables pour gagner le match à l'extérieur. C'est clair. Il reste 13 matchs. C'est la moitié de la saison. C'est certain, nous serons plus confiants et plus contents si on est dans les deux. Mais on a confiance en nous, en nos principes, en nos préparations, en nos performances et nos jours. On était, comme je dis, on était un peu déçus la semaine dernière, mais ce n'était pas catastrophique non plus.
Il va faire très très froid à Bordeaux demain soir aussi. Vraiment, pour ça, les conditions de jeu, on va voir. On sait que
non, mais le gros problème de Bordeaux, Nico, c'est, je trouve, leur manque de constance cette saison. Où tu l'as dit, ils sont passés des fois à côté cette saison à l'extérieur de manière assez surprenante. Mais c'est surtout là, leur calendrier qui s'annonce. Parce qu'en Coupe d'Europe, alors ils ont fait le job pour le moment, mais ils sont dans une poule hyper serrée avec Northampton qui a 10 points et Bristol qui a 9 points. Ouais, ils reçoivent Northampton et ils vont terminer à Bristol qui va cartonner Clanecly à la prochaine journée de Coupe d'Europe. Donc ils ne sont même pas sûrs de finir premier de leur poule non plus en Coupe d'Europe. Ils vont avoir le tournoi destination à gérer. T'as l'impression qu'ils se sont mis un peu le bazar tout seul là. Alors après, Yannick Bru, il fait tourner, il fait de la gestion. Et c'est très bien parce que je trouve qu'il manage bien ses joueurs et qu'il les épuise pas. Mais t'as l'impression que là, ils vont devoir courir plein de lièvres en même temps. Que les 12 points de retard sur Pau, bah, il va falloir les rattraper parce que bah, j'avais dit que la section avait un match important contre Montpellier. Et je pense que le fait de le gagner pour eux, ça leur valide l'ambition d'aller plus haut que le top 4. Et que Bordeaux, va falloir décider, il va falloir mener des combats, il va falloir faire des choix. Et que peut-être au bout d'un moment, il va peut-être falloir laisser quelques matchs de top 14 pour aller loin dans cette Champions Cup.
Je suis d'accord avec toi, Jules. Après, je pense que quand même, tu fais rentrer des joueurs et on va le voir dans la compo d'équipe. Hein. Oui. Par exemple, Jean-Luc Dupraz va disputer son premier match de top 14, l'international sud-africain, le Springbok. Tu vas faire rentrer des joueurs, même s'il y a des départs d'internationaux, tu es quand même armé pour aller prendre des points à l'extérieur dans ce top 14. Et d'ailleurs, McNamara a développé son propos là après le son que vous avez entendu et qu'on vous a diffusé. C'est ce qu'il disait. Il disait non, mais nous, on est sûr de notre jeu, on est sûr de la profondeur de notre effectif. On sait aussi qu'on n'a pas été épargné par les blessures, contrairement à la saison dernière en début de saison, qu'on a eu 4 semaines de prépa. Il reste 13 matchs, c'est long.
Et après, tu le dis, alors des fois, on rigole, voilà, mais tu dis qu'il y a une IBB sans Mathieu Jalibert et avec Mathieu Jalibert.
Mais c'est vrai.
Il fait un non, mais oui. Mais sauf qu'est-ce que c'est pas Mathieu Jalibert qui masque un peu les défaillances
c'est possible.
Un peu bordelaises sur le saison. Alors tu vois, pour le coup, Mathieu Jalibert, s'il part sur le tournoi, ce qui serait quand même logique, on espère que Mathieu Jalibert va être appelé par Fabien Galthié pendant le tournoi. Il va falloir qu'il gère cette période de doublon, même s'il n'y aura pas forcément de nombreux matchs de top 14. Il va falloir qu'il gère aussi l'absence de Mathieu Jalibert, l'UBB. Donc c'est aussi une donnée à prendre en compte.
Ah non, mais clairement, de toute manière, cette période de doublon, ça avait été un moment charnière de la saison dernière parce qu'on savait que Bordeaux galérait historiquement depuis 4-5 ans pendant cette période-là. Leur meilleure saison de leur histoire, c'est l'année dernière parce qu'ils ont réussi à amortir cette période de doublon, à rester efficace et à prendre des points pendant cette période-là. Si ce n'est pas le cas cette année, c'est sûr que ça va énormément se compliquer. Mais malgré tout, avec l'effectif et les joueurs qui rentrent, je me dis qu'il y a moyen pour Bordeaux de continuer à jouer sur les deux tableaux. En tout cas, lâcher le top 2 à 13 journées de la fin, tu vois, Ils peuvent pas le dire. Dans tous les cas, quand t'es
l'UBB
avec
trop tôt,
l'effectif
évidemment
que t'as, tu peux pas le dire aussitôt. Tiens, on va terminer avec un petit son de Jonathan Hill, le deuxième ligne du Racing 92, qui nous parle de ce match. Rappelons qu'au match aller, le Racing avait battu Bordeaux. Et avec un Racing 92 qui avait fait un début de match en fanfare.
Un énorme spring.
Qui a complètement étouffé l'UBB avec un énorme spring. On l'écoute.
Bordeaux veut du jeu ouvert, du désordre, des transitions et beaucoup de vitesse. S'ils arrivent à créer ces moments, ils s'envolent très vite. On va devoir tenir le ballon et imposer notre structure pour réduire au maximum leurs opportunités.
Je trouve que ça résume très très bien.
Alors attends, juste, c'est très fort parce que le gars, le traducteur, c'est le gars que vous entendez dans le podcast.
Ça résume très très bien la physionomie, je pense, du match de demain. Le Racing, tu l'as dit, Julien, c'est pas une équipe qui produit du jeu. C'est une équipe qui est très forte pour aller casser l'adversaire sur ses points forts. Ils l'ont fait sur le Stade Français. Colazo l'avait dit, ils sont forts en mêlée, en occupation. Et ben on leur a enlevé la mêlée et on leur a donné un maximum de ballons dans leur camp. Ça va pas être les mêmes points forts pour Bordeaux et ils vont être plus durs à stopper que ceux du Stade français. Mais je trouve ça intéressant ce que dit John Hill, d'imposer la structure du Racing au maximum, d'imposer des phases arrêtées, d'imposer de l'occupation, d'essayer d'aller chercher des pénalités face au bordel organisé dans lequel l'Union Bordeaux-Bègles excelle. Je trouve, Julien, qu'il y a un bel affrontement de style dans cette rencontre.
Juste précision, il y aura un vrai doublon, parce que le chef nous envoie un message, ouais, vous n'êtes pas assez rigoureux, donc il y aura un vrai doublon de top 14, le 14 février, lors de Bordeaux.
Arrête de mettre tirer au chef, hein.
Mais non, mais c'est, Wilfried, j'anticipe si tu les tirs qui va...
Si je l'écoute, c'est pas nous, on n'a rien fait. Et t'as vu, moi je lui pose une question tactique sur un match, et il me fait un...
Le 15 février, match de l'équipe de France au Pays de Galles, il y aura une journée de top 14. Après, il n'y aura pas de journée de top 14 pendant les autres matchs du Six Nations. Mais il y aura probablement des faux doublons et des joueurs protégés par Fabien Galthié. Donc, c'est ça. Peut-être que Mathieu Jalibert ne fera pas partie des joueurs protégés.
Voilà. C'est fort probable. Hein, même.
On ne sait pas.
On verra bien. On verra bien. Tiens, je vous avais pas demandé vos résolutions et vos souhaits rugby pour 2026. On va faire ça en fin de podcast quand même.
Oh là là.
Non, je pense à ça parce que j'en ai un petit peu avec Mathieu Jalibert. Bon.
J'ai quelques résolutions.
Mathis Perchaud, la composition de l'Union Bordeaux-Bègles. Pilier gauche, Maxime Lamotte, Carlo Sadi pour la première ligne bordelaise. Palu, Cazot en deuxième ligne. Verne Taillefer, Temo Mathieu numéro 8 qui enchaîne et Cameron Wauquiez numéro 7. Boris Palu et Cameron Wauquiez, ce sont les deux joueurs à avoir le plus de temps de jeu à Bordeaux.
Et les anciens du Racing. Voilà.
Exactement. Et ils avaient été d'ailleurs, eux, pour le coup, plutôt pas mauvais lors du match aller. La charnière, Lucu Jalibert du classique. Van Rensburg en 12. Moefana qui glisse en 13. Pablo Huberti portera le numéro 11. Damien Penaud fait son retour. Il avait été ménagé comme Jalibert la semaine dernière à Clermont avec le numéro 14. Et enfin, Romain Burros à l'arrière et sur le banc de touche. C'est du solide, hein. Très solide côté Bordeaux. Barlow, Poirot, Tian Jacobs. On en parlait. La première de Jean-Luc Duprez, l'international Springboks qui est arrivé cet été, qui s'est blessé lors du Rugby Championship avec l'Afrique du Sud. Donc, il va faire sa première hache à Bandelmas. Arthur Retière, Nicolas Deporter, Louis Bielbiaré et Ben Tamifuna. Le banc de touche, il est quand même assez XXL côté Bordeaux. Pierrot, la compo du Racing.
Là aussi, c'est très épais et on le disait, ils ne font pas tourner les Franciliens, même quand ils vont à l'extérieur. Gogi Chachvili, Escobar, Karajvili pour la première ligne. Johnny Hill et Romain Tao-Fifenois pour la deuxième. Maniarara, Leno et Nathan Hughes la troisième ligne. Carbono, Sun, la charnière titulaire. Joe Manu en 12, Vinaya Abossi en 13 et Gaël Ficou à nouveau titulaire à l'aile comme face au Stade français. Ça avait été plutôt une réussite et on sait que Vinaya Abossi est vraiment considéré comme un centre au Racing désormais. Et donc Gaël Ficou glisse à l'aile avec Ravu Tomada, le Fidjien, en 14 et Sam James à l'arrière. Il y a un absent principal, c'est Max Spring, on le disait, qui avait été excellent au match aller, et Tarit qui est toujours suspendu donc sur le banc. Bass en talonneur remplaçant, Colin Gare et Taniela Toupou qui enchaînent sur le banc en numéro 23, qui a finalement entré contre Montauban. Tagi Valou, Bodon, Cléo Labarbe, Josh Tuisova et Pritchian Tehi pour compléter le banc.
21h, samedi, Union Bordeaux-Bègles Racing 92. Je vais mettre des moufles parce qu'il va faire très froid. Pour commenter ce match-là.
Plus il fait froid, plus il pleut et plus le Racing va être content, je pense.
C'est possible. C'est fort probable même. La deuxième affiche sur laquelle on voulait se pencher, Jus, c'est le déplacement du Stade toulousain sur la pelouse de l'USAP, les Catalans qui ont eu ce petit déclic d'aller remporter un match à la maison et de lancer leur saison. Bon, on a du mal à voir qui peut stopper ce Stade toulousain.
Là, c'est un Stade toulousain bien remanié quand même. Là, c'est pas le Stade toulousain.
Là, c'est pas un gros Stade toulousain. C'est pas un gros Stade toulousain. Ça fait toujours peur. Mais
ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une aussi grosse rotation quand même.
Mais je pense que Laurent Labitte, il a dû être. Ouais. Non, mais je pense qu'il y a deux moments où il faut prendre le Stade toulousain, c'est pendant les doublons ou juste une semaine avant la Coupe d'Europe. Qui plus est, quand le Stade toulousain a perdu un match imperdable à la deuxième journée en Écosse, c'est que Toulouse n'a plus du tout le droit à l'erreur en Coupe d'Europe et que du coup, Hugo Mola, vu qu'ils font eux le job en top 14 et qu'ils ils ont un peu de latitude pour faire tourner, on va en parler, mais il fait quand même un peu tourner, même grandement tourner avant d'aller à Aimé Giral, qui est en plus une pelouse qui ne leur réussit pas trop depuis que Perpignan est remonté. 4 victoires catalanes sur les 4 dernières saisons, dont une, je me rappelle, la saison dernière, à la dernière journée où les Catalans prennent le bonus offensif et ça leur permet de se décrocher le barrage. Et ça avait mis un peu le doute dans l'esprit de tout le monde en disant ouais, est-ce que Toulouse est toujours une grande équipe? Est-ce qu'ils vont pouvoir aller gagner le top 14 avec cette défaite un peu honteuse du côté d'Aimé Giral? Bon, ils avaient répondu quelques semaines après. Non, mais voilà, c'est pas une terre facile pour les Toulousains de se déplacer à Perpignan. Perpignan, tu l'as dit, a remis la marche avant avec cette première victoire contre Clermont. Pierre était à Toulon. Ils font pas un mauvais match à Toulon.
Ils font un bon match. Franchement, ils sont au contact.
Oui,
au contact
non, mais ça, ils avaient. Voilà, ils avaient fait un bon match à Pau. Il y a un échec depuis un mois. C'est le match contre Montpellier, la première de Laurent Labitte, où ils sont passés totalement à travers. Mais tu sens que Laurent Labitte, il a remis quand même des choses en place. Qu'il va y avoir de nouveau une grosse ambiance demain à Aimé Giral. Et puis. Il y a malgré tout la possibilité demain de quitter déjà cette 14e place et de passer devant Montauban, même si on ne dit pas que Montauban va perdre contre Clermont, mais la probabilité est grande et que du coup, Clermont, Perpignan peut, avant de recevoir Montauban dans 15 jours, être déjà passé devant Montauban et presque enterrer Montauban dans 15 jours en les recevant à Aimé Giral. Donc, dans la psychologie catalane, demain, c'est un match peut-être hyper important. C'est peut-être une finale demain que joue Perpignan dans cette fin de saison parce qu'ils peuvent quasiment assurer cette 13e place sur le mois qui vient. Donc, ils reçoivent Toulouse une semaine avant la Coupe d'Europe sans la plupart des cadres. Pour te dire, c'est Emmanuel Méafou, le capitaine du Stade toulousain. Juste pour donner une petite tendance à nos auditeurs, après on va vous donner la compo. Mais
13 changements par rapport à La Rochelle. Quand même.
Non, voilà. Mais allongé sur la compo, les gars, parce que c'est vrai.
Alors,
qu'il y a
Benjamin Bertrand, Thomas Lacrombe, Dorian Aldeguerri, Elias Méafou en deuxième ligne, Castro Ferreira, Ntamack, Banos en troisième ligne. Après, encore une fois, ça reste une équipe très costaud et très solide. On ne dit pas que c'est l'équipe C du Stade Toulousain. Hein. Graou, Gourgue à la charnière, qu'on va découvrir donc. Gourgue en numéro 10. Delib, Vinière, Coste, Thomas et Alari pour la ligne de trois quarts. Et sur le banc de touche, il y aura Peatomovaka, à souligner quand même le retour de Peatomovaka. On aura évidemment, juste avant le tournoi à destination, un gros focus sur le retour de Movaka. S'il revient dans la même forme qu'Antoine Dupont, il ne faut pas que Toulouse y soit trop loin à l'heure de jeu pour Perpignan, parce que sinon ils vont trembler. Paul Malaise, Clément Verger, Roméo Bonnard-Martin, Alexandre Rouma, Saito, Némor et Georges-Henri Colombe. Voilà, on va découvrir aussi des jeunes joueurs toulousains. Mais oui, vous avez compris que Toulouse fait quand même tourner avant ce match très important pour eux de la Coupe d'Europe de la semaine d'après.
Vous n'avez pas choisi un jeune Toulousain dans vos joueurs à suivre là pour la fin de podcast?
Non.
Non, mais
non.
Du coup,
non, mais dire quand même que c'est pas. Enfin, je me permets de corriger, Julien. C'est Roméo Bonnard Martin, c'est le fils de Rémi Martin.
Ah, Martin, pardon.
Donc,
Martin.
Martin. Roméo Martin.
Martin. Martin. Ah, c'est le fils de Rémi Martin. Ah, d'accord, tu vois, je ne savais pas.
Ça lui allait pas mal, hein. T'as pas écouté un apéro des poteaux parce que le chef en avait parlé, ça. Ah, allez, ça, je pense que ça va encore compter dans ton entretien des vals. Toi, t'es en train de les accumuler quand même.
Boulette.
En train de les accumuler quand même. Toulouse qui reçoit Thomas Larry, premier match de top 14. Par exemple, le jeune 15.
Toulouse qui sera au Saracens en Coupe d'Europe juste la semaine prochaine, pour préciser. Ouais. C'est aussi pas simple comme déplacement. Donc, d'où le
Vinière, c'est son troisième match en carrière. Là, je suis en train de regarder sur les lignes arrière. Jérémy Nemort, on l'a jamais
premier,
vu sur une
feuille
de top 14. Donc voilà, il y a beaucoup de premières du côté
mais,
de
mais
Toulouse.
Mais une petite attraction de Calvin Gourgandis quand même. Franchement, ouais, ça donne envie de le voir quand même.
Non, Gourg,
sachant
même
que
le retour de Movaka,
mais je crois que Calvin Gourg a été formé à ce
poste.
Et
puis le staff toulousain en parlait depuis longtemps, hein, disant qu'il était capable de le faire. Donc,
10, 12, 13, 15, ils disent qu'ils peuvent
Je
jouer.
Pense que tu le mets à
l'aile. En tout cas, il a été formé à l'ouverture. Oui, exactement, format à l'ouverture, pour pouvoir jouer. Non, mais ça, voilà, ça fait partie des attractions qu'on va voir demain. L'équipe toulousaine, clairement, elle a de la gueule sur le papier. Voilà, Laurent Labitte, il n'a pas non plus sauté au plafond en disant « Ouais, on reçoit les espoirs de Toulouse ». Mais il n'y a pas Ntamack, il n'y a pas Dupont, quand on voit l'état de forme déjà d'Antoine Dupont la semaine dernière contre La Rochelle. Voilà,
non, mais quand même Julien, là, t'as quand même une corde de motivation facile à Perpignan de regarder l'équipe qui nous envoie, ils nous prennent pour des peintres. C'est à peu près la même équipe que ce qu'ils avaient envoyé à Montauban. C'est le côté, voilà, on va chez un promu, on peut s'en sortir avec cette équipe-là. Je pense que la motivation est toute trouvée pour les Perpignanais pour sortir un gros match.
La compo de l'USAP, Jus.
Tetrashvili, Samama Lolo, Kerian Brooks, Mathieu Tanguy, Van Tonder, X, Vellart, Richie capitaine pour la troisième ligne, James Sol, Benjamin Urdapileta à la charnière, Granel, De La Fuente, Dougie Valou, Théo Forner sur l'aile et le retour d'Antoine Ocagne titularisé à l'arrière après de grosses galères pour Ocagne, Ruiz, Devaux, Yato, Oviedo, Ecochard, Reus, Job Poulet, Pietro Ceccarelli, gros banc aussi côté de l'USAP qui voilà joue
qui
gros,
n'a toujours rien à faire à la 14e place de toute façon.
C'est... Non, cet effectif là quand on voit l'effectif ça reste improbable mais voilà, je pense qu'ils jouent gros ce match là contre avant la coupure européenne où ils feront aussi tourner. avant de recevoir Montauban. Te dire que tu fais 3 victoires sur les 4 derniers matchs pour les Catalans à la fin du mois de janvier. Ils se seront peut-être sortis une grosse épine du pied pour non pas se dire que la 13e place est assurée, mais s'ils mettent Montauban à quasiment 5 points ou 6 points au soir de Perpignan-Montauban, ils auront fait quand même un grand pas peut-être pour jouer le barrage en fin de saison.
Ouais. Et tu le disais ouais. juste à Toulon, ils ont vraiment un gros match. Je pense à Lucas Vellart qui revenait, qui a été énorme en 8, Max Graney qui est un super joueur aussi. Honnêtement, ils ont largement ce qu'il faut pour se maintenir. Et tu le disais, là, tu gagnes contre Toulouse. Tu peux limite te mettre à regarder plutôt du côté de Lyon que derrière toi, Montauban, parce qu'il y a un tel écart de niveau entre
Julien,
les deux équipes.
Ça aussi, Julien l'a dit. Ça aussi, c'était un
problème. J'y crois peu, mais c'est vrai qu'ils peuvent se sortir, s'enlever une belle épine du pied là, en battant le Stade Toulousain demain.
Non, moi, je crois qu'ils peuvent être à 12 points de Lyon avant de recevoir le Loup, qui tape le Loup et les revenir, tu vois, à 7 points. Et que sur une journée, tu te dises ah ouais, mince, attention. Non, mais ils sont trop loin aussi. Mais le Loup, quand je les vois, je me dis il faut qu'ils regardent aussi derrière. Je pense qu'il ne faut pas trop qu'ils s'emballent les hommes de carrière.
Je ne pense pas que ce soit l'ambiance.
J'ai l'impression que ce n'est pas, la dynamique du moment, l'emballement là, à Lyon.
Non. Mais bon, il ne faut pas s'arrêter derrière.
Ce sera 14h30 demain pour lancer cette 14e journée de Top 14 USAP Stade Toulousain avec toi, Jus. On enchaîne. On voulait vous parler de cette affiche de dimanche soir qui est ultra sexy sur le papier. Pierrot, ce La Rochelle-Toulon à 21h05. Sauf que Pierre Mignoni a eu une décla et y était la semaine dernière qui laisse
penser On peut l'écouter.
On l'a.
C'est nickel, allez, on peut écouter Pierre Mignoni.
On a beaucoup de blessés, on a perdu des joueurs importants au niveau des avants notamment. Il faut serrer les fesses, il faut passer entre les gouttes, comme on dit. Il faut faire des choix. On me reproche souvent de ne pas faire de choix, de jouer tous les matchs à fond, etc., etc. Là, je vais être obligé de faire des choix, c'est clair. Parce qu'on a un mois de janvier difficile. Heureusement que notre jeunesse est là. Ils auront encore plus l'occasion de jouer à La Rochelle, je le dis déjà dès aujourd'hui. Comme ça, on ne sera pas surpris. Mais effectivement, je vais faire des choix parce que, comme je l'ai dit, on a un mois de janvier difficile.
Bon, il avait un peu crié, non, sur le match de Pierre Mignoni.
Les comptes d'après-match de Pierre Mignoni, c'est toujours assez marrant.
Oui, ou alors il a chopé un petit virus, mais là il s'est passé quelque chose. En effet, il y a eu un truc. Qu'est-ce qu'on disait ? Oui, la compo n'est pas encore tombée, mais il est clair. Hein. Alors après, des fois, on se dit ouais, les managers de top 14, il fait de l'intox. Bon, là, tu sens quand même que.
Ah non, mais ça va. Seront là, quoi, évidemment, les jeunes seront là. Ils ont la Champions Cup derrière. Eux aussi, comme Toulouse, ils ont grillé un joker du côté d'Edimbourg aussi. Toulon a une dizaine de blessés. La Rochelle en a une quinzaine. Donc déjà, ça marque un peu le match. Melvin Jaminet est toujours absent. Pierre Damon aussi. Twifoua, fin de saison. Alagahu est encore absent, opéré du pied. Lucchesi, blessé au genou 6 semaines. JB Gros, encore une grosse semaine d'absence. Jikashvili n'est pas là. Rebadj, fin de saison. Kéré Karaba, fin de saison, Matteo Garcia, problème à l'adducteur. Donc déjà, ça met forcément des problèmes dans cette équipe toulonnaise. Et tu l'as dit, ils vont recevoir le Munster et finiront du côté de Gloucester cette campagne européenne. Ils ne peuvent pas jouer sur tous les tableaux avec leur équipe type systématiquement. Et quand on connaît les difficultés du RCT à l'extérieur depuis le début de la saison, on rappelle qu'ils n'ont battu que Montpellier sur la première journée. Et sinon, ça a été très, très compliqué. Je vois mal, moi, cette équipe toulonnaise aller embêter La Rochelle. On va peut-être voir la première ligne des espoirs, tout simplement, avec Ahmed Lato, Evalou et Narmania, des joueurs comme Srekovic, comme Moreau, des troisièmes lignes qu'on n'a jamais vues en top 14. Derrière, la ligne va être plutôt cohérente, mais devant, il y a tellement, tellement, tellement de rotations, et La Rochelle, pour le coup, est quand même une équipe qui peut se baser sur son paquet d'avant, que j'ai du mal à voir Toulon, ne serait-ce qu'exister du côté de Marcel de Flandre.
Oui, et puis j'en reviens avec ces gestions de Coupe d'Europe où La Rochelle... On en a parlé, mais je pense qu'ils n'ont pas forcément une grosse ambition sur cette compétition européenne et que Ronan O'Gara va faire tourner sur l'Arkazen qui vient. Quand tu l'as dit, Toulon n'a plus le droit à l'erreur et il faut gérer. Et puis, ils ont quand même une hécatombe de blessures derrière. Ils ont des blessés quasiment que devant. Donc, c'est fou, Toulon, là, de te dire comment ils vont terminer la saison, parce que ça laisse des traces là. Donc ouais, je pense déjà que le match de dimanche soir va rentrer dans les matchs de score très large, probablement.
Après le Bignoni le rappelait après le match, il disait oui c'est compliqué, mais on est troisième, on a 39 points, on a 5 points d'avance, ouais, sur le Stade Français. Et parce qu'on lui disait quand même le match de Perpignan, il disait ah non mais Perpignan est pas à sa place, mais je préfère être à la mienne qu'à la leur quand même, en disant ouais, les gars, oui, on fait quand même une première partie de saison qui est bonne. Après, en effet, tu l'as dit, je ne sais pas, moi, je sais pas ce que t'en penses, s'ils ont la capacité de jouer sur les deux tableaux. Ils sont déjà quasiment grillés la possibilité de jouer à Mayol sur les phases finales de la Champions Cup en allant perdre.
Et puis tu l'as dit, en parlant, quand tu vois les difficultés qu'ils ont à l'extérieur, te qualifier pour aller te faire détruire.
Aller aux Stormers en huitième, je sais pas,
ouais,
si
c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'il va falloir faire des calculs. Bah, je pense que le Munster va leur indiquer ce week-end, ils sauront où ils seront après le Munster. À Mayol, oui, ils vont savoir les ambitions qu'ils peuvent avoir dans cette compétition. Mais en tout cas, tu as raison qu'avec l'hécatombe de blessures qu'il y a aujourd'hui à Toulon, il va falloir qu'ils fassent eux aussi des choix pour espérer quelque chose en fin de saison, mieux que l'année dernière, à savoir un quart de finale contre Toulouse et une demi-finale de top 14. Donc s'ils ambitionnent mieux, il va falloir peut-être qu'ils fassent un choix, en tout cas cette saison, vu l'hécatombe qui touche.
Mais là où je suis d'accord avec Pierrot, c'est que là où ce choix peut surprendre, c'est que tu n'as aucune assurance en Champions Cup, alors que tu es quand même troisième du top 14, je veux dire. Et tu as déjà un petit écart de points avec un concurrent direct comme l'UBB. Tu aurais pu te dire, bon, bah, à la Coupe d'Europe, on verra bien ce qui se passe en y envoyant une.
Ouais, mais ils doivent cibler, Nico. Et je pense, enfin, à mon avis, j'ai pas d'infos, mais ils ont sans doute peut-être plus ciblé le déplacement à Pau le 1er février, juste avant le début du tournoi de destination, parce qu'après la Champions League, ils vont recevoir Montpellier et puis aller à Pau. Si tu te dis que tu privilégies le match du Munster en numéro 1, bah, tu fais tourner avant, ouais, et ensuite tu mets jusqu'au début du tournoi. Et si tu vas faire un coup à Pau,
tu rattrapes le fait de mettre le match contre le Munster peut-être en numéro 1. Parce que franchement, ce La Rochelle-là à deux Flandres, après en avoir pris 60. Je sais pas, je me dis qu'il y avait
après il va pas pour le perdre
Nico,
hein,
mais le problème Nico, c'est que Pierre Mignoni, il a envoyé la grosse équipe à Bordeaux,
celle qu'il pouvait envoyer après,
oui, non mais je veux dire sans vraiment faire de choix, il a pour le coup il a vraiment envoyé une belle équipe à Bordeaux avec l'ambition d'aller y faire quelque chose, et ils en ont ramassé 46, donc dans sa gestion là, je pense que, je dis pas qu'ils vont balancer à La Rochelle, mais dans sa gestion où il faut peut-être faire des choix, il a privilégié la Coupe d'Europe la semaine prochaine, en se disant bah, on envoie les jeunes, donner de l'expérience. Ce qu'a pu faire le Stade Toulousain avant en 2018-2019, Hugo Mola, parfois, il envoyait des jeunes pousses. Je me rappelle avoir revu la composition d'équipe du Stade Toulousain à Montpellier 2018-2019, sous Verne Cotter. Le Stade Toulousain en prend 60. Si je vous annonce l'équipe qu'il y avait eu sur la pelouse ce jour-là, on avait Thomas Ramos, Romain Tamac, Guillaume Marchand. Il y avait tous les jeunes qui sont aujourd'hui en train d'exploser aux yeux du grand public. Donc parfois, il faut donner temps de jeu à Kowi, qui est un très bon joueur, et que ben, c'est des matchs où ils vont peut-être ramasser, mais ils vont peut-être aussi beaucoup apprendre.
Mais pour aller juste un peu plus loin dans ce débat, je me demande si aujourd'hui c'est possible d'exister sur les deux compétitions en étant à fond tout le temps. Toulouse est capable de le faire, et encore, ils sont allés perdre à Glasgow. Mais sinon, Pau est deuxième, mais Pau a balancé la Champions Cup depuis la première journée. Bayonne est dans le top 6, mais a balancé la Champions Cup aussi. Le Stade Français, le Racing, ils jouent pas de Coupe d'Europe, ça leur permet d'être performants. Et sinon, évidemment, pour Bordeaux, c'est plus compliqué. Pour Toulon, c'est plus compliqué.
Mais
parce
d'ailleurs,
que ça
Pierre,
pompe
même
une énergie, mais incroyable.
Ben regarde les éclats qu'a pris le Stade Toulousain cette saison à l'extérieur.
Mais
ce qui n'aurait jamais arrivé.
Jamais arrivé avant.
40 points à Montpellier, 40 points à Toulouse.
Et je ne parle pas que physiquement, c'est mentalement aussi de toutes les semaines.
Mais c'est pour ça,
c'est-à-dire
que même Toulouse, cette saison, n'est peut-être pas en mesure non plus d'enchaîner dans ce championnat qui est, on n'arrête pas d'en parler, qui est si difficile aujourd'hui, où tu n'as plus un match qui est cadeau, où tu peux y aller, justement, où tu dis mentalement à 80%, tu te dis que ça va passer. Si tu n'es pas à 100% aujourd'hui dans tous les matchs, et bien, tu as les équipes, aujourd'hui tu lâches. Et Toulouse n'a jamais explosé comme ils ont explosé cette année à l'extérieur. Et du coup, ils font des
Toulouse
choix.
Et Toulouse a plus de points que l'an dernier à la même époque. Mais il ne faut pas oublier que la présence de Montauban fausse un peu le championnat. C'est dur de le dire comme ça, mais tout le monde prend 5 points contre Montauban à peu près. Donc forcément, toutes les équipes ont un petit peu plus de points que l'an dernier.
C'est vrai. Ce sera le choc, du coup, avec des guillemets. On attend de voir. On paye pour voir, comme on dit. Tiens, d'ailleurs, si vous voulez vous pencher un peu sur ces affiches là du samedi soir, du dimanche soir, il y a un papier sur le site rmcsport.fr.
Un très bon papier.
Avec, tu dis ça parce que je l'ai écrit ?
Mais évidemment.
Oui. C'est pas faux. avec les très bonnes infos de Pierre Thévenet, bien évidemment.
Ben oui.
qui... Parce que lui, il bosse hein, pendant les périodes de fête.
Julien nous a pas du tout aidé. Voilà, si vous voulez savoir, si vous
c'est
vous
vrai que Julien nous a pas aidé. C'est pas faux. Alors qu'il était au planning lui aussi, mais on l'a pas vu. Tout. C'est étonnant ça. Stade Rochelet, Toulon, dimanche à 21h05. Quel match on a choisi d'hier? Ah bah oui, bah Montpellier. Le MHR qui reçoit Bayonne à 16h35, le multi-rugby des Montpellierains. Mais on n'était pas loin hein, quand même lors de nos derniers pronos au jus. On voyait le MHR faire un petit coup à Pau. Ça s'est joué à pas grand-chose.
Ouais, ils ont même des regrets. En revoyant le match, déjà, en le voyant, ils ont eu des regrets. En jouant, ils ont eu des regrets. Et en le revoyant, ils ont eu encore plus de regrets. Bon, il y a déjà deux essais refusés. Alors oui, c'est la règle. J'ai toujours du mal à comprendre comment on peut refuser l'essai de Massibaka. Pas lié au ruck, c'est quand même difficile, hein, cette règle, je trouve, sur l'essai de Massibaka. Mais oui, ils sont pas loin. Ils se le mangent tout seul, en fait, quasiment, le match à Pau. Ils ratent l'entame, ils ratent les deux entames. Ils reviennent, ils décrochent le bonus défensif qui leur va leur faire du bien, mais oui, ils n'étaient pas loin. Je pense qu'en tout cas, cette équipe-là, dans la construction, dans l'esprit de Johan Codulo, grandit. L'année dernière, ils auraient explosé. C'est des matchs où ils n'auraient jamais ramené un point. Cette année, ils ont ramené ce point du déplacement. Le match contre Bordeaux à domicile la saison dernière, quand Bordeaux repasse devant, ils auraient probablement perdu. Cette année, ils ont réussi à le gagner, tout comme Castres. Voilà, cette équipe, elle a franchi un cap. Elle manque encore de constance sur 80 minutes, même d'un match à l'autre. Mais c'est une équipe qui, voilà, on l'avait dit en début de saison, qui est armée en tout cas pour être dans les 6, qui a l'effectif pour être dans les 6. Voilà, il faut trouver de la constance. Et ils jouent un match là, voilà, ils avaient un enchaînement important dans cette saison, ce déplacement à Bayonne, et ce déplacement à Pau et la réception de Bayonne. Voilà, il ne faut pas se rater contre Bayonne demain après-midi, parce que bah, si tu te rates contre Bayonne, tu auras perdu 3 fois cette saison à domicile, et tu pourras quasiment faire une croix sur le top 6. Ça sera trop compliqué, comme on le dit tout le temps, c'est tellement compliqué d'aller gagner à l'extérieur. Montpellier l'a fait à Perpignan, a ramené des points de bonus de Bordeaux notamment, du Racing et de Pau. Mais si tu perds 3 fois à domicile, tu te condamnes quasiment au top 6. Donc c'est quasiment aujourd'hui défaite interdite contre Bayonne qui
vient encore une semaine...
Ouais, qui vit une semaine traditionnelle à Bayonne, oui. Un petit coup de gueule du président. Mais non, je ne mets pas la pression à mon coach, qui pour le coup viendra en avion pour les problèmes d'agriculteurs, pour essayer de mettre l'équipe dans les meilleures dispositions possibles. Parce que Bayonne a quand même tendance à prendre 42 points de moyenne en déplacement à l'extérieur et qui envoie du coup une grosse équipe aussi. Juste les compos, donc Banks qui va évidemment jouer 80 minutes, comme d'hab, l'arrière australien, Taofifenua qui a été très bon à Pau et qui va être reconduit sur l'aile avec Arthur Vincent, Picardo et Maël Moustin sur... Ah non, j'avais pas...
C'est Ngandebe qui joue.
Pas... Oui, c'est Ngandebe, c'est ça, je me disais que j'avais pas la bonne équipe devant moi. Price et Domingo Miotti à la charnière, Nushi Vunipola Béconnier en troisième ligne, Duguid Verag, Forletta Tolofua, Ong Patin pour le 15, Ricitelli, Erdosio, Tolène, Chaluro, Massibaka, Colli, Darmon, Japaridze pour le banc de touche côté Montpellierin. Donc voilà, on aligne à la très grosse équipe, en sachant que Pierre parlait tout à l'heure des blessés du côté du Racing. Il n'y a aucun blessé sur la ligne devant côté Montpellierin. Donc il y a l'embarras du choix pour le MHR. Ils ont quelques bobos derrière, mais devant, il y a tout le monde qui est sur le pont. Et côté Bayonnais, tu l'as dit, effectivement, ils envoient une grosse équipe, excepté Capilla.
Qui est blessé,
ouais. Qui est blessé, ouais, à la voûte plantaire. Bordelais, le pilier qui est absent, mais ça sera... alors, je la recherche.
Si ah, mais vas-y. Cormenier, Martin, Côté en première ligne. Johnson et Paolo sont en deuxième ligne. Fischer, Léota et donc Baptiste Egui plutôt que Capilla en troisième ligne. Et sinon, derrière, c'est pour moi la meilleure ligne possible. Yantis, second à la charnière. Tuilagi Makala au centre. Carreras, Spring, Tiberghien pour le triangle arrière. Donc là, pour le coup, on a une équipe de Bayonne qui vient sans doute tenter de faire un coup. D'autant que eux, la Champions Cup, c'est déjà quasiment terminé. Et donc, avec leurs deux premières défaites en deux matchs. Et donc, on voit bien, hein, typiquement, qui joue quoi sur cette journée juste avant la Champions Cup. On voit quelle équipe priorise quelle compétition.
Et il y a du matos sur le banc aussi. Hein. Par exemple, Pituria sur le banc. Voilà. Oui, en effet, on fait pas le déplacement à vide.
Ouais,
côté Bayonne, voilà pour la présentation de nos petites affiches de cette 14e journée de Top 14. Ça, ce sera dans le multi-rugby, ce MHR Bayonne. Température estimée à Montpellier, jus demain, il va faire bon?
Ouais, un petit 12
toujours
degrés.
Toujours bon, bah oui, c'est 12, ça. Petit 12 degrés, ouais, c'est la cata, quoi.
Ah, mais il n'y a que moi qui suis dans un
grand froid. T'inquiète pas, à Paris, on est très bien aussi.
Petit, petit Clermont, ils avaient l'air bien dimanche dernier. À Clermont, ils avaient l'air bien.
Ouais, à Clermont, ils avaient un peu frais, un poil frais. Les gars, vos joueurs à suivre sur cette 14e journée de Top 14, je commence avec Pierrot.
Bah, j'ai pas voulu prendre justement un petit jeune Toulousain parce qu'il y a un cadre qui revient titulaire du côté de Lyon, Mickaël Guillard. Évidemment qu'on le connaît tous, mais je pense que son absence était terrible pour le Loup et il est retour titulaire. Il a joué une petite demi-heure à Castres la semaine dernière et quand on regarde la compo lyonnaise, il y a quand même une équipe qui, comme on en parlait de Perpignan, mais qui n'a rien à faire à la 12e place du top 14. Ils reçoivent la section paloise demain, les Lyonnais, et je pense que ce retour peut coïncider avec un mieux pour le Loup, et j'en parle aussi vis-à-vis de l'équipe de France parce que ça me fait plaisir qu'il joue à ce poste de numéro 5 en club aussi, qui pour moi est celui qu'il doit occuper aussi en équipe de France. Et donc c'est un retour qui est très important à la fois pour le Loup et pour les Bleus, et que sans doute que Fabien Galthié va regarder très près les Lyonnais qui doivent absolument gagner et qui mettent une très très grosse équipe face à la section.
Mais c'est vrai que cette journée, elle est importante. Ce début d'année 2026 est très important parce qu'on voit qu'il y a des cadres potentiels des Bleus là, pour le futur tournoi qui retrouvent les pelouses de top 14.
Atisokbe qui revient à Pau aussi.
Ouais, exactement. Exactement, Atisokbe est sur le banc, j'allais le dire. On a parlé tout à l'heure de Peato Movaca, Guillard. Donc, à suivre. On sait que c'est une période charnière aussi pour les internationaux. Jus, ton joueur ?
Eh bien, j'en vais parler sur le même match, mais je vais prendre un pas loin. Clément Mondina, dont on n'a pas encore beaucoup parlé du côté de la section paloise, mais qui est un jeune joueur aussi plein de potentiel, formé du côté de Tarbes, comme Fabien Broboiry, arrivé à la section paloise très tôt, embêté par les blessures, les genoux, la main, lancé en pro à 18 ans à peine. La génération Oradou, Atisokbe, il est d'ailleurs champion du monde, il est remplaçant en finale à l'arrière avec Mathis Ferté, et on l'a redécouvert la semaine dernière au Hameau lorsqu'il est rentré après à peine 10 minutes de jeu, et il a marqué un doublé contre le MHR en rentrant à l'arrière à la place d'Emery Kluck. Mais voilà, c'est fait partie des joueurs dont on parlait de la section paloise qui sont issus de la fameuse capsule recrutée aux alentours de Pau, donc là du côté de Tarbes, et un joueur à très fort potentiel qui est plutôt formé à l'ouverture, mais avec les blessures, et il a été aussi essayé à l'arrière par Piccheroni, et il a répondu de la plus belle des manières la semaine dernière en marquant ses premiers essais en professionnel, alors qu'il avait été lancé très tôt à la section paloise, et c'est la génération Radou Atsukbe, je vous l'ai dit. Voilà, il va relancer sa carrière en espérant qu'il soit épargné par les blessures, mais ça fait partie encore de cette génération des moins de 20 championnes du monde, les Nouchi, les Reuss, qui ont déboulé en top 14 depuis longtemps. Certains ont pris plus de temps, Mathis Ferté à Toulon en début de saison, et donc Mondina, lui, depuis quelques semaines, retrouve le groupe professionnel et devrait faire parler de lui d'ici la fin de la saison.
Ouais, joueur super intéressant, hein. Pas un grand gabarit, 1m78, mais il a du gaffe.
Très bon buteur aussi.
Totalement. Les gars, merci beaucoup pour cette 14e journée de Top 14. On va quand même terminer ce podcast avec vos résolutions 2026 quand même, parce que moi je manque à tous mes devoirs. Une résolution rugby 2026 ou un souhait rugby 2026, Pierre Thévenet.
On va pas faire un souhait, on va faire plutôt une prédiction qui va faire hurler Julien Landry.
Ok.
Les deux clubs parisiens seront dans le top 6 à la fin de l'année.
Non, mais ça va pas me faire hurler.
Voilà, c'est mon petit prono du jour que j'essaie d'imposer à la rédaction depuis ce matin. Et j'ai convaincu notamment Arthur Jean, notre collègue rugby, avec des faits. Et voilà.
C'est vrai.
Stade français et Racing seront dans le top 6. Oui, j'ai embêté aussi un peu Roxane.
C'est totalement.
Non, j'avais déjà fait. J'avais déjà dit que Fabien Galthié arrête de nous enfumer, mais ça c'était.
Non, c'est bon. Tu vas pas y retourner.
Mais non, c'est pour ça. Non, j'avais déjà dit, donc je ne vais pas le redire.
Mais quand même, tu le reglisses un coup.
Je reglisse au cas où, tu vois. Non, je pense que j'aimerais bien que l'Italie fasse un gros tournoi à destination.
D'accord.
Quoi, plus de deux victoires ?
Je pense qu'ils peuvent faire plus que deux victoires. Je trouve que cette génération italienne est intéressante. Je trouve qu'ils ont une ligne de trois quarts qui commence à tenir la route. Brex, Menoncello, Garbisi, même si ce n'est pas le meilleur des 10, mais voilà, je trouve qu'il est pas mal. Capozzo, je trouve qu'ils commencent à avoir une équipe intéressante. Et je pense qu'ils peuvent finir peut-être sur le podium du tournoi destination. Alors, je dis pas toi, premier, deuxième, le podium, il y a la troisième place aussi.
Bonne question, j'étais en train d'y réfléchir. Je ne veux pas vous parler de Mathieu Jalibert. En même temps, moi, vous savez,
si, ça peut être ton souhait.
Moi, c'est... Mais c'est qu'il reste à son niveau, moi c'est tout, voilà.
Hein, c'est qu'il reste à Bordeaux, ou... qu'il aille mais pas à Marcoussi, ah bah oui. Qu'il nous fasse rêver à Bordeaux.
Non, c'est un souhait plus sur les Bleus, mais c'est plus... J'aimerais qu'on retrouve une identité de jeu chez nos Bleus là, dans ce tournoi des destinations à désormais un an et demi de la Coupe du Monde. Mine de rien, ça commence un peu à presser. Il y a quelques signaux qui peuvent être inquiétants vu la tournée de novembre là. Et j'espère que voilà, on va revoir des choses autour d'Antoine Dupont, autour du retour de certains cadres, qu'on va voir aussi des jeunes vraiment émergés et vraiment responsabilisés, parce que bah, mine de rien, ça s'approche. Hein. Les amis, c'est dans pas si longtemps que ça.
Ah, mon souhait, j'y pense là, c'est que le France-Angleterre J5 du tournoi destination soit la finale du tournoi.
Pour le grand chelem, c'est la finale
pour le grand chelem. Mais pour le grand chelem, je pense que c'est possible, Pierre.
Ouais, oui,
je trouve que les Anglais redeviennent une très très grande nation avec des jeunes joueurs qui montent. Je trouve que les clubs anglais vont bien. La sélection anglaise est sur 11. Match 11 victoires consécutives. Je pense qu'ils peuvent faire un grand tournoi. Ah ouais, si on pouvait avoir un France-Angleterre finale pour le Grand Chelem, quel pied. Et là, on referait des débats la semaine. Alors, c'est l'Angleterre ou l'Afrique du Sud, le plus grand ennemi de l'équipe de France. On va se régaler déjà toute la semaine, tu vois. Mais celui-là, si on peut l'avoir, France-Angleterre,
14 finale mars, pour le Grand Chelem.
Ah ouais, régalade. Ouais. Voilà, un grand moment.
Les gars, merci beaucoup. Je vous rappelle que tous les matchs de cette 14e journée sont à suivre sur RMC. Je vous rappelle également que Entre les poteaux, ça continue en 2026 avec des épisodes tous les lundis et les vendredis, veille de week-end de Top 14, l'apéro des poteaux pour tout savoir de notre championnat. Merci à Roxane Lacusca, merci à Daniel Torres, dit Toto, le dernier supporter toulonnais, encore vaillant à la rédaction à Paris. C'est lui, voilà. Et rien que pour ça, bravo Toto. Allez, ciao, à la semaine prochaine.